Bon réveil si vous nous rejoignez, nous sommes le lundi 24 octobre 2016 et voici le journal de Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Des migrants sont déjà au point de rendez-vous pour l'évacuation de la jungle de Calais, mais l'opération doit permettre d'évacuer en France entre 6500 et 8000 personnes, doit toujours commencer officiellement à 8h. Elle devrait durer une semaine. Sur place, nous rejoindrons notre envoyé spécial Adrien Toffolet. Des migrants dont certains fuient la Syrie, Alep notamment, où les bombardements ont repris ce week-end. Des millions de réfugiés affluent vers la Turquie. Nous irons dans ce journal à Gaziantep, où Jean-Marc Ayrault a visité un camp. Reportage de Bertrand Ganichet dans ce journal.
Et François Hollande recevra les syndicats de policiers à l'Élysée mercredi.
Les policiers en colère qui réclament toujours plus d'effectifs, plus de moyens matériels, des peines sévères pour leurs agresseurs et la révision des règles de légitime défense. À 7h13, dans le billet économique, Jean-Marc Chardon reviendra sur les grandes manœuvres dans les groupes de médias côté finance.
Et la question du jour, que sait-on véritablement des relations entre la France et le Qatar? Le sujet du jour, policiers et profs, le malaise de catégorie d'urgentiste de la République.
Le démantèlement de la jungle de Calais commence officiellement dans une heure. 6500 à 8000 exilés qui vont être emmenés en bus vers des centres d'accueil un peu partout en France. En Turquie, ils sont près de 3 millions de migrants, dont une immense majorité de Syriens. C'est le pays qui accueille le plus de réfugiés, notamment à Gaziantep. C'est là que s'est rendu hier le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Marc Ayrault, dans le camp de Nizip, où vivent tant bien que mal des milliers de personnes, beaucoup de familles originaires d'Alep. Sur place, le reportage de Bertrand Galichet.
Ces enfants syriens de 4 et 5 ans qui chantent « Frère Jacques » ont au moins la chance d'avoir une école dans un bâtiment en dur à l'entrée du camp de Nizip, près de Gaziantep. Leurs familles font partie des 5000 réfugiés qui vivent ici dans de minuscules bungalows en forme de containers alignés à perte de vue le long de rues pavées. Adnan, la cinquantaine, habite le camp avec ses 6 frères et leur famille. C'est un camp qui a été conçu pour vivre 6 mois, mais nous ça fait plus de 3 ans qu'on est là, dit-il. Adnan garde l'espoir de rentrer chez lui à Homs. Il remercie les autorités turques d'avoir accueilli autant de réfugiés. La Turquie, où 3 millions de personnes ont trouvé un asile ces dernières années, l'effort est considérable, admet le ministre français des Affaires étrangères en parcourant le camp.
Nous sommes à moins de 100 km d'Alep ici. La Turquie est le pays qui accueille le plus de réfugiés. Leur espoir, c'est de revenir chez eux. Et aujourd'hui, nous assistons à une guerre totale du régime Bachar el-Assad, et donc la communauté internationale et la France en première ligne doit tout faire pour arrêter ce massacre.
On ne peut pas arriver à une négociation sous les bombes, martèle Jean-Marc Ayrault en pointant du doigt la Russie qui participe au bombardement d'Alep.
Le reportage de Bertrand Galichet. Alep, à nouveau sous les bombes, et au moins 3 civils qui sont morts hier soir, dont une femme et un enfant. Selon les chiffres de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, des tirs d'artillerie et des frappes aériennes ont repris donc après un bref répit. Une trêve unilatérale décrétée par la Russie qui s'est achevée samedi soir. Mais cette pause humanitaire de 3 jours n'a pas permis d'évacuer les blessés des quartiers assiégés. Si on veut que les réfugiés puissent rentrer un jour chez eux, il faut arrêter ce massacre, a déclaré hier Jean-Marc Ayrault. En attendant, le gouvernement doit lancer dans moins d'une heure l'évacuation du grand bidonville de Calais. Adrien Toffolet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de la jungle de Calais. Quelle est la situation en ce moment sur le terrain?
Eh bien, ils sont à peine 100 dehors. Pour l'instant, des Soudanais devant les grilles du sas à faire la queue dans le noir, à attendre dans le froid. Il fait 7 degrés ce matin. Alors, ils sont habillés chaudement, mitouflés dans des couvertures, tirant des grosses valises. Mais ce n'est qu'à 8 heures que les portes s'ouvriront pour entrer dans le hangar qui les mènera dans les CAO partout en France. L'ambiance est assez calme et triste. Ceux avec qui j'ai pu parler m'ont fait part à la fois du soulagement de quitter des conditions de vie difficiles et la tristesse d'un abandonné leur rêve d'Angleterre. Ces derniers jours, les associations ont travaillé d'arrache-pied pour tenter d'informer les migrants au mieux sur le démantèlement, ce qui allait arriver. Ils leur ont aussi donné des chaussures, des valises, des sacs de couchage en prévision de leur périple. Les autorités ont aussi bien informé les migrants, mais seulement à partir d'hier. Le dispositif était assez impressionnant et tous espèrent que tout se passe correctement aujourd'hui.
Merci Adrien Toffolé en direct de la jungle de Calais pour France Culture avec donc des informations qui ont été transmises aux migrants sur le déroulement de cette opération, des responsables de la préfecture et des bénévoles des associations d'aide aux réfugiés ont distribué dans le bidonville des documents rédigés dans 9 langues différentes. Les policiers encadrent cette évacuation alors que leur mouvement de colère continue et s'est encore matérialisé dans les rues. Plusieurs manifestations non déclarées ont eu lieu hier soir, notamment à Nancy et à Boulogne-sur-Mer. Un mouvement qui échappe aux syndicats. Hier après-midi, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a rencontré 2 policiers non syndiqués qui participent au mouvement de protestation. Une discussion en marge d'un déplacement au commissariat de Créteil. Des contacts multiples sont pris par l'exécutif pour tenter de désamorcer la crise, alors que François Hollande recevra, lui, les syndicats ce mercredi, Nathalie Hernandez.
Les premiers contacts ont déjà eu lieu entre représentants locaux et préfectures pour organiser ces rencontres, des réunions afin d'écouter les personnels et améliorer les conditions de travail des hommes et des femmes au quotidien. L'objectif est de dresser une liste exhaustive du manque de véhicules, du manque d'équipements ou encore des travaux nécessaires dans les commissariats dont certains frisent l'insalubrité. Un autre volet concerne l'allègement des tâches indues, tel le transfert des détenus qui doit revenir en principe à l'administration pénitentiaire, des gardes statiques jugées inutiles, voire dangereuses, car elles font du policier une cible. Idem concernant le travail administratif, qui devrait être encore plus allégé. Le ministre de l'Intérieur a d'ailleurs demandé au directeur de la Sécurité publique de recentrer les fonctionnaires sur leur cœur de métier en les remettant sur le terrain. Un rapport d'évaluation doit être remis à Bernard Cazeneuve à la mi-décembre.
Nathalie Hernandez, le mouvement de manifestation de policiers hors de tout cadre a commencé le 17 octobre dernier sur les Champs-Élysées. Des policiers exaspérés par l'attaque au cocktail Molotov de 4 de leurs collègues le 8 octobre à Viry-Châtillon dans l'Essonne, après une éprouvante année d'état d'urgence. Alors qu'à la cité des 4000 à la Courneuve en Seine-Saint-Denis, un bus de la RATP a été incendié avec un bidon d'essence. Ça s'est passé samedi soir. Au moins 2 individus ont menacé la conductrice et fait descendre tous les passagers avant de mettre le feu au véhicule. C'est un ultimatum. L'Union européenne a donné à la Belgique jusqu'à ce soir pour décider si elle soutient ou pas l'accord de libre-échange avec le Canada, le CETA. Le Parlement de la région belge francophone de Wallonie a rejeté ce traité le 14 octobre dernier. Et depuis, l'UE tente d'obtenir un passage en force du gouvernement fédéral, sans quoi la signature avec le Premier ministre canadien prévue jeudi prochain sera annulée. Sur place, les précisions de Laxmilota.
Un tel ultimatum n'est pas compatible avec le processus démocratique, a déploré le leader des contestataires, le socialiste Paul Magnette. Samedi, le président du Parlement européen, Martin Schulz, de la même famille politique que le chef du gouvernement wallon, a tenu à le rencontrer. Le président du Parti socialiste belge a évoqué des pressions invraisemblables ces derniers temps sur Paul Magnette. Ce même jour, 6000 manifestants ont défilé à Amsterdam pour apporter leur soutien à la Wallonie. Le temps lui faisant terriblement défaut jusqu'à jeudi, l'UE a fait savoir hier au Premier ministre belge qu'il devrait donner une réponse sur la signature de son pays d'ici ce soir. Les Européens ne veulent pas faire venir le Premier ministre canadien pour rien. « Ce n'est pas le moment de flancher », a répondu le co-président du parti écolo qui soutient la Wallonie. Peut-être la réunion de la dernière chance cet après-midi avec une rencontre entre le gouvernement fédéral et toutes les entités régionales face à face pour décider si la Belgique pourra accorder ses violons dans le temps imparti.
Laxmilota. La crise politique continue au Venezuela sur fond de crise économique. Le Parlement, dominé par l'opposition, a accusé hier le président Nicolas Maduro d'avoir perpétré un coup d'État en suspendant le processus de référendum révocatoire contre le chef de l'État. Au cours d'une séance houleuse de 4 heures, le Parlement a appelé les citoyens vénézuéliens et la communauté internationale à défendre la démocratie face au président Maduro. Le Yémen a renoué à nouveau avec des raids aériens, des combats avant même la fin de la trêve de 72 heures en vigueur depuis jeudi dernier. Trêve qui s'achevait théoriquement le samedi à minuit. Mais Nabila Hamel, les appels de Washington et de l'ONU à une prolongation du cessez-le-feu n'ont pas été entendus.
Des affrontements étaient déjà signalés dans la journée de samedi à la frontière saoudo-yéménite. La situation s'est détériorée davantage hier avec une série de frappes aériennes contre les rebelles houthis dans la capitale Sanaa et d'autres régions du pays. Les rebelles ont, eux, revendiqué un tir de missile sur un camp militaire dans le sud de l'Arabie saoudite. En tout, une centaine de violations du cessez-le-feu en 48 heures. Les deux parties, d'un côté les forces loyalistes du président Hadi et la coalition arabe, de l'autre, les rebelles chiites houthis et les partisans de l'ancien président destitué Ali Abdellah Saleh s'accusent mutuellement d'en être responsables. Une reconduction de la trêve est donc inutile, estiment certains belligérants. Pourtant, les efforts de l'ONU et de Washington étaient en partie destinés à soulager la population civile qui paie un lourd tribut depuis mars 2015. Le conflit au Yémen a fait 6 900 morts et 35 000 blessés, sans compter les 3 millions de déplacés. À la guerre s'ajoute un risque d'épidémie de choléra. 9 personnes en sont mortes dans la grande ville du sud d'Aden. En tout, 200 cas ont été diagnostiqués depuis le début du mois. L'apparition de la maladie serait due à une alimentation en eau fortement dégradée en raison des destructions dues au conflit.
Nabila Hamel. Les syndicats d'Air France se réunissent aujourd'hui pour examiner l'avenir de leur comité central d'entreprise. Un bras de fer oppose la CGT aux autres syndicats de la compagnie aérienne. Un médiateur a été ancien DRH de la compagnie, vient de rendre ses conclusions dans un rapport interne et il préconise une série de réformes urgentes pour mettre fin au déficit du CCE d'Air France. Un déficit qui s'élève à 700 000 euros de dette cette année et plusieurs millions dans les années qui viennent si aucune réforme n'est engagée. Mais les solutions pour sauver ce CCE d'Air France sont loin d'être partagées par l'ensemble des syndicats. Le temps pour votre lundi, des nuages, de la pluie sur les deux tiers du pays, à l'exception du nord et du pourtour méditerranéen le matin. L'après-midi, la grisaille et les averses remontent vers le nord. Temps sec au sud avec de belles éclaircies. Température douce avec 9 degrés à Lille, 13 degrés à Brest, 15 à Bordeaux, 20 degrés à Perpignan, 22 à Marseille, maximum 24 degrés l'après-midi sur la Corse.